Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM et merci d'être à l'écoute de l'émission Regard sur le passé proposée par le service patrimoine. Avec vous aujourd'hui, Pascal. Et pour vous faire sourire un peu en cette période de confinement, je voudrais vous raconter l'histoire du Père Goémon ou le séjour sur l'île Dieu d'un savant pour le moins facétieux, Jean-Marie Bachelot de la Pilaie. Au départ de Saint-Gilles, personne à bord de la chaloupe ne prêta attention à ce personnage aux allures distinguées qui se rendait à l'île Dieu. Un officier, sans doute, qui venait faire une tournée d'inspection. Il n'était pas rare, en effet, de voir des officiers à l'île Dieu. Depuis 1817, il n'y avait plus de garnison dans l'île, mais cela n'empêchait pas les militaires de venir. Ils étudiaient la défense de ce point stratégique et rédigeaient des rapports qui prenaient la direction des ministères. Et depuis la construction du phare de la Petite Foule, en 1830, le grand phare, comme on disait, les visites se faisaient plus fréquentes. Mais cette fois-ci, notre inspecteur, car il s'agissait à n'en pas douter d'un inspecteur, ne venait pas compter les habitants, décrire les côtes ou dresser les projets d'édification d'un fort. Non, il s'embarquait avec ses malles vers cette île isolée pour venir y passer en revue les crabes, les poissons, les herbes et les goémons. Bachelot de la Pilaie, puisqu'il s'agissait de lui, se présentait comme un naturaliste, au sens encyclopédique du terme, et il venait à la découverte de l'île Dieu après avoir séjourné quelque temps à Noirmoutier. C'était un véritable personnage. Né à Fougères en 1786, il avait manifesté très tôt un esprit ouvert et curieux, passionné certes par les sciences naturelles, zoologie, botanique, minéralogie, mais aussi par l'archéologie et l'histoire, avec une prédilection toute particulière pour la préhistoire. En voyageur infatigable, il s'aventura très tôt à Terre-Neuve et en Afrique. Il parcourut l'ouest de la France et s'attarda plus particulièrement dans certaines îles, Ouessant, Watt et Dick, avant de séjourner à Noirmoutier en 1831. En correspondance régulière avec Cuvier, il informait scrupuleusement le célèbre naturaliste de ses observations et de ses découvertes. Mais ce réel talent, doté d'une plume aisée et d'un coup de crayon remarquable, était doublé d'un esprit pour le moins fantaisiste qui mit parfois notre savant dans des situations délicates. Tout d'abord, Jean-Marie Bachelot de la Pilaie n'était nullement, comme son nom pouvait le laisser penser, un aristocrate. Même si certains actes notariés qualifiaient son père de noble homme, ne nous y trompons pas. C'était ainsi que l'on nommait justement ceux qui ne pouvaient accoler à leur nom les mots prestigieux d'écuyer ou de chevalier, signe distinctif des aristocrates. La Pilaie profita de cette confusion et usurpa le titre de baron. À Noirmoutier, il herborisa, attira l'attention des notables sur quelques monuments préhistoriques et découvrit des témoignages irréfutables d'une présence romaine sous l'Antiquité. Mais son insatiable curiosité l'amena aussi à s'intéresser à l'île du Pilier, un îlot tout proche du port de l'Herbaudière, au nord de l'île. Il y logea 3 semaines chez le gardien de phare. Questionna les employés sur les provisions du magasin à poudre et voulut connaître le nom des batteries. À une époque où les légitimistes s'activaient pour faire valoir les droits de la duchesse de Berry, cette attitude parut pour le moins suspecte et attira l'attention des employés qui en référèrent à leur supérieure hiérarchie. Le commandant d'armes de Noirmoutier avertit son général des faits et gestes du sieur Lapillet qui se disait naturaliste, mais pouvait bien être un espion. La situation devenant délicate, Bachelot de la Pilaye quitta donc Noirmoutier et s'embarqua pour Lisdieu. La découverte de ce monde encore vierge de toute étude sérieuse, hormis celle des curés qui, tout au long du XVIIIe siècle, avaient porté un regard savant sur ce petit bout de terre dont on leur confiait les âmes. La découverte, dis-je, fut pour lui un émerveillement. Les poissons, les algues, les plantes, les nombreux monuments mégalithiques qui s'éparpillaient dans l'île, tout l'attirait. Sacoche au dos, marteau à la main, il rôda partout, inspecta tout, grattant les falaises, fracassant des roches et prenant sans cesse des notes sur son calepin. Sur l'île, la passion qu'il manifesta pour les algues surprit. Les insulaires étaient habitués à récolter les algues. Elles servaient de combustible sur une terre où le bois était rare. Et quand venait la saison, certains récoltaient les grandes laminaires, les quejanes, pour les brûler dans des fours creusés à même le sable sur la lande pour fabriquer la soude. Mais ici, on ne ramassait point les algues une à une. La Pilaye, indifférent au regard étonné ou goguenard des gens du cru, remplissait son herbier d'algues marines, s'intéressait aux dolmens et aux pierres à cupules et recueillait les légendes auprès des habitants. Petit à petit, les bonnes gens s'habituèrent à sa présence et ne virent en ce monsieur aux belles manières, aux passions peu communes, qu'un original, au demeurant inoffensif, qu'ils affublèrent, comme on sait si bien le faire ici, du surnom de Père Goémon. Les choses commencèrent à se gâter quand il fut surpris à rôder près de la fontaine située dans la sente de la Meule entre le village et le port. Cette fontaine, croyait-on, et peut-être le croit-on encore aujourd'hui, avait la particularité de procurer une heureuse fécondité à ceux et celles qui buvaient de son eau. Certains l'appelaient même la fontaine aux Bessons, aux jumeaux en patois, parce que beaucoup de couples auraient eu des naissances multiples après s'y être rafraîchis. Qu'allait-il faire près de cette fontaine ? L'eau des puits était précieuse à l'île-Dieu qui ne possède pas de source vive. Du coup, l'inoffensif Père Goémon devenait un personnage louche, peut-être bien un sorcier. Répété de bouche à oreille, d'oreille à bouche, vers d'autres bouches et encore d'autres oreilles, la rumeur s'amplifia. Ces longues observations des pierres étranges venues de la nuit des temps où les frats avaient coutume de choisir l'île pour danser leur sabbat, et s'il était venu invoquer les esprits, et toutes ces herbes, qu'en faisait-il ? Sans doute pas de la bonne médecine. À n'en pas douter, c'était une personne maléfique, un enjeu mineur dont il valait mieux se méfier. La Pilaye s'aperçut-il que les gens devenaient de plus en plus distants, de plus en plus méfiants à son égard ? Peut-être. Toujours est-il que notre botaniste, pressentant l'incompréhension de la population, piqué au vif dans son orgueil, voulut réparer son honneur de savant bafoué. Ce qu'il fit, évidemment, à sa manière. Sa nature fantaisiste, et peut-être un brin fanfaronne, prenant le dessus sur la rigueur du scientifique, il imagina une mise en scène digne d'une pièce de théâtre pour frapper l'imagination de ces ignares d'insulaires et leur prouver que l'on peut être savant, zoologiste, botaniste et préhistorien tout en restant un très bon chrétien. Il décida de se rendre de Port-Breton, où il résidait, à Saint-Sauveur pour y entendre la grand-messe en habit de membre de l'Institut, avec à son bras une dame de la société. Et le voici, cheminant gravement, revêtu de son habit couleur puce rehaussé de broderies noires, le chapeau français à trois cornes sur la tête et l'épée au poignet d'acier au côté. Nous ne saurons malheureusement jamais si l'effet escompté se réalisa. Mais nous pouvons facilement imaginer les commentaires des fidèles rassemblés dans l'église en voyant arriver l'étrange personnage dans son bien costume. « Oh Dieu, comment que l'est un cnier ! Ah, bédame, tchoulat, l'est œil pas sorti de la fumée des bousins ! » Quand on sait que le prétendu baron n'était pas non plus membre de l'Institut, on peut avoir une idée assez exacte de son excentricité. Mais notre savant ne s'arrêta pas là. Il se piqua d'urbanisme et voulut aménager une petite place plantée d'ormeaux qui se trouvait dans le prolongement de la rue Forcée et descendait en pente douce jusqu'à la Grève. À cette époque, Port-Breton n'était encore qu'un petit havre d'échouage où les bateaux venaient se mettre à l'abri derrière plusieurs jetées parallèles à la direction du rivage, et la mer, aux grandes marées, venait battre le pied des maisons. Les aménagements y étaient sommaires et surtout vétustes. Mais on était justement sur le point d'y entreprendre de grands travaux. Il s'agissait dans un premier temps de construire une jetée perpendiculaire au rivage, puis un brise-lames sur les rochers du port. Nous étions aux prémices d'un immense chantier qui, tout au long du XIXe siècle, allait profondément remanier le port et transformer la vie de ses habitants. Mais je vous raconterai ça une autre fois. Pour faciliter les futurs travaux, la municipalité avait déjà entrepris la démolition de la partie supérieure du vieux quai. Le maire, Charles-Jean Pignolet, ancien médecin-chef de l'hôpital militaire qui était établi à Saint-Sauveur sous l'Empire, ne s'opposa donc pas au projet de Bachelot de Lapillet quand celui-ci vint lui proposer de récupérer une partie des pierres du vieux quai pour transformer, à ses frais, la petite place où il résidait en terrasse. Les travaux commencèrent sans réelle estimation préalable de leur ampleur et de leur coût. Notre savant se transformait en urbaniste et en mécène, avec enthousiasme certes, mais sans grand sens des réalités. Très vite, on se rendit compte que Lapillet ne serait pas en mesure de payer la totalité des frais occasionnés. Mais celui-ci, sans perdre sa convenance, se retourna vers la mairie pour obtenir les subsides nécessaires à l'achèvement de son projet. La commune, qui n'avait rien demandé et s'engageait alors dans un cycle de travaux autrement plus conséquent et utile, refusa de payer le complément. Maintes fois relancé, le maire et son conseil, considérant que cet aménagement n'était absolument pas une priorité, ne voulurent rien entendre. Et Bachelot de Lapillet, débouté, quitta l'île en abandonnant un chantier inachevé. Profondément déçu par tant d'incompréhension, le savant laissa libre cours à son amertume et son mépris pour cette population qui avait été incapable de mesurer son génie. La commune, quant à elle, ne fut pas aussi ingrate et rancunière qu'il le pensait. Quelques années plus tard, quand le budget communal le permit, on termina la fameuse place. Et quand elle fut achevée, on décida de lui donner le nom de celui qui avait eu l'idée de la créer, à défaut de pouvoir la payer. J'espère que cette petite histoire dans la grande aura su vous divertir. Et pour ceux qui souhaiteraient continuer le voyage, vous pouvez la retrouver, ainsi que quelques autres, dans le livre « La fagoteuse » de Jean-François Henry. Je vous souhaite quant à moi une belle fin de journée et vous donne rendez-vous prochainement pour vous raconter les travaux qui, dans la deuxième partie du XIXe siècle, ont profondément remanié le port de l'Île-Dieu. À bientôt !